Chapitre 13. L'île aux moines. La voiture d'Yvette fut retrouvée le lendemain, garée sur le parking du port du Lavandou. Au bout de 3 jours, on apprit que Jean-Claude Martin, son homme de main Francesco et sa comptable, qui était sans doute aussi sa maîtresse, avaient été repérés par la police espagnole. Le break de Francesco avait été impliqué dans un banal accrochage à Barcelone. Évidemment, les 3 complices étaient empressés de prendre la fuite. La police avait perdu leur piste. Yvette passa son été à l'hôpital, aux côtés de son mari convalescent. Il se remettait tout doucement des mauvais traitements qu'il avait subis ces derniers mois. Pendant 4 jours, je traînais avec Stéphane dans la maison d'Yvette. Nous avions ordre de rester tranquilles et de nous reposer. Nous nous occupâmes, en papotant de tout et de rien, comme 2 tourtereaux si bien dans leur bulle qu'ils en oublient le monde extérieur. Au bout de 4 jours, mes parents prirent la décision de rentrer chez eux. N'étant pas complètement remise, je dus les suivre. Stéphane, lui, reprit son travail au chantier, son patron ne s'en sortait pas tout seul et l'attendait avec impatience. L'été fila comme filent les beaux jours. Les vacances se terminaient. Je passais mon temps libre à aider mon grand frère dans les travaux d'aménagement de la maison. Il s'agissait de terminer la future chambre des parents et d'avancer au mieux la nouvelle salle de bain familiale. Plusieurs fois j'écrivis à Stéphane, mais l'écriture n'était pas son fort et il préféra me répondre par téléphone. Nous attendions la rentrée avec une certaine impatience car il avait été convenu que Stéphane passerait un week-end sur 2 à la maison. C'est juste une semaine avant la rentrée qu'un simple coup de fil modifia ce qui aurait pu être une fin d'été bien tranquille. Ursula, une de mes 2 meilleures amies, appela un jeudi soir. Elle était allée passer sa dernière semaine de vacances chez sa marraine en Bretagne. Celle-ci avait une maison sur l'île aux moines, dans le golfe du Morbihan. En faisant tranquillement le tour de l'île à vélo, Ursula avait cru reconnaître Jean-Claude Martin en pleine discussion avec 2 hommes au milieu des bateaux sur le chantier naval de Guippe. Elle n'était pas absolument sûre que ce soit lui, et pourtant, elle se savait assez physionomiste, et ce Jean-Claude Martin, elle avait eu l'occasion de bien l'observer sur le port de Hyères, lorsqu'il venait à son bateau. C'est quand j'ai vu ses yeux. Immédiatement, je me suis dit, c'est lui. Ça a duré 1 seconde. Après, il a tourné la tête, et je n'ai plus vu qu'une silhouette banale. Mais je ne peux pas me défaire de l'idée que c'était bien lui, à quelques mètres de moi. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Aussitôt rentrée de balade, elle m'avait appelée. Au départ, je n'ai pas cru à son histoire. La coïncidence était trop grosse. Mais en y réfléchissant, ce n'était pas invraisemblable. Après l'accident de voiture à Barcelone, le trio avait sans doute cherché à s'éloigner au maximum pour contrecarrer les recherches des polices espagnoles et françaises. Se cacher sur une île bretonne, c'était assez discret. Ce n'était donc pas une mauvaise idée. Un spécialiste des moteurs de bateaux, navigateur expérimenté, pouvait avoir l'idée de prendre la poudre d'escampette par la mer. Il faut en être absolument sûr. Ursula, est-ce que tu ne peux pas y retourner, surveiller le coin, jusqu'à avoir la certitude que c'est bien lui ? Écoute, Emmanuel, je ne suis pas téméraire comme toi. Ce type, il me fout la trouille. En plus, je n'ai vu ni sa poule, ni son tueur espagnol. Ils étaient peut-être tous les deux là à faire le guet. Ils m'ont peut-être vu passer. Qu'est-ce qu'ils me feront s'ils voient que je les observe? Je n'ai aucune envie de tomber dans leurs sales pattes. En ce cas, le plus simple serait de prévenir tout simplement la police. Mais est-ce que tu es vraiment sûre de toi? Ben oui. Enfin, peut-être. C'est difficile. C'était surtout les yeux. Que fallait-il faire? Impossible de me décider. Tout ce que je pus répondre, c'est « Bon, écoute-moi, je vais essayer de joindre Stéphane. Il me dira ce qu'il en pense. Je te tiens au courant. » Il n'était pas encore trop tard. J'obtins rapidement la communication avec le chantier à Hyères. C'est le patron qui me répondit. Mais il me connaissait et j'eus très vite Stéphane au bout du fil. Mis au courant, il n'hésita pas longtemps. Il y a longtemps que j'avais envie d'aller à l'île aux moines visiter le chantier du Guippe. Ils construisent et restaurent des bateaux en bois, comme nous, au chantier. Mais ils ont une renommée que nous sommes loin d'avoir. C'est peut-être la bonne occasion pour aller y faire un tour. Je vais voir avec mon patron. Je peux sans doute m'échapper pour le week-end. Et toi, comment vas-tu faire? Tu me rejoins sur place?
Je vais voir. Comment vais-je obtenir l'autorisation des parents pour une virée improvisée en Bretagne une semaine avant la rentrée?
Il faut que je trouve une solution. Mais au pire, tant pis pour moi.
Vas-y quand même, vois avec Ursula. Il faut qu'on soit sûr. Mais surtout, ne prends aucun risque. Si c'est bien lui, tu appelles les flics, ils le bouclent et c'est terminé.
Je raccrochai, m'assis et me pris la tête dans les mains. Je cherchais la meilleure manière de tenter une négociation avec les parents. Je jugeais plus prudent de ne pas parler des prolongations de l'enquête. J'étais trop sûre d'un refus. Finalement, je demandai seulement la permission d'aller passer 2 ou 3 jours avec Stéphane. Pour ne pas mentir, je ne mentionnais pas de lieu. Je vis bien que mes parents étaient réticents. Ils n'étaient pas rassurés de me voir filer comme ça à quelques jours de la reprise des cours. Mais j'avais bien bossé dans la maison, ils connaissaient le sérieux de Stéphane et n'avaient pas beaucoup d'arguments à m'opposer. Après réflexion, ils finirent par accepter. Je n'étais pas très fière de moi d'avoir dupé mes parents, mais jamais ils ne m'auraient laissé partir pour une traque aux bandits sur une île bretonne. Quand j'y repense maintenant, j'aurais dû réfléchir un peu plus aux risques que nous prenions, mais j'étais tellement heureuse de retrouver Stéphane que s'il m'avait donné rendez-vous sur la banquise, j'y serais allée sans hésitation. C'est ainsi que le samedi matin, je pris le premier train pour Lyon. Mais à la gare de la Part-Dieu, je partis vers le nord au lieu du sud. À Paris, ce fut la galère, car je devais changer de gare et je ne savais pas trop comment faire. Arrivé gare de Lyon, j'ai dû monter dans un RER qui allait gare Montparnasse. C'était la première fois que je me retrouvais seule à Paris. J'avais très peu de temps et j'eus du mal à trouver comment faire. Arrivé à Vannes, il me fallait encore trouver un bus jusqu'à Port-Blanc, l'embarcadère pour l'île aux Moines, puis prendre une place sur le bateau. Heureusement que je pouvais puiser dans les réserves financières qu'Yvette m'avait confiées. Personnellement, je n'aurais pas eu les moyens de me payer un tel voyage. La maison de la marraine d'Ursula était sur le port et heureusement pas difficile à trouver. Elle se trouvait à quelques centaines de mètres du fameux bar-restaurant chez Charlemagne. Quand j'arrivais au bout de cet interminable voyage, il était 7h30 du soir. Je retrouvais Stéphane qui était arrivé quelques heures plus tôt. Il avait fait le voyage en stop depuis hier et s'était bien débrouillé car il avait mis moins de temps que moi pour faire une route plus longue. J'eus beaucoup de joie à le revoir. Un peu intimidés, l'un en face de l'autre, nous eûmes un instant d'hésitation, puis nous nous embrassâmes avec fougue. Par égard pour Ursula qui avait des choses à nous dire, nous dûmes abréger ce temps de retrouvailles exubérantes. Ursula avait courageusement refait un tour de l'île à vélo depuis son appel téléphonique. Mais elle n'avait vu personne aux abords du chantier du Guip. Malgré la fatigue, j'avais très envie de sauter sur des vélos pour aller voir ce fameux chantier et tenter d'apercevoir l'homme qui était peut-être Jean-Claude Martin. Mais notre hôtesse ne voyait pas les choses ainsi. Ursula ne l'avait pas prévenue qu'elle nous avait invités dans le but de faire coffrer de dangereux malfaiteurs. Elle pensait naturellement que nous étions là pour découvrir l'île. Elle nous interdit donc de sortir tant que nous n'aurions pas pris la peine de nous asseoir et d'avaler le repas qu'elle avait préparé à notre intention. Ce dîner fut un véritable festin. Madame Mavlec était un vrai cordon bleu. Soupe de poisson, fruits de mer, gratin de pommes de terre, fromage blanc à la crème et Queen Amman en dessert. Nous avions effectivement très faim en arrivant, mais nous sortîmes de table avec l'impression de nous être gavés. C'était tellement bon et préparé de si bon cœur. Nous aidâmes à débarrasser puis à faire la vaisselle, car il n'y avait pas de lave-vaisselle. La nuit tombait lorsque nous fûmes enfin libres. Stéphane et Ursula n'avaient plus le courage de sortir et encore moins de pédaler. Mais je réussis à les convaincre, car je tenais à me faire une idée des lieux avant de risquer d'y rencontrer Jean-Claude Martin et ses 2 acolytes. Une petite remise contenait une collection de vieux vélos plus ou moins rouillés. Nous dûmes faire notre choix à la lampe de poche dans une demi-obscurité. La balade fut excellente pour la digestion. L'air était vivifiant. Nous passâmes 2 fois devant le chantier, 1 fois à l'aller et 1 fois au retour.
mais pour rester discret, nous ne mîmes pas pied à terre. Je pus tout de même repérer l'emplacement exact entre deux bateaux en réparation où Ursula avait vu l'homme qui pouvait être Jean-Claude Martin. Nous montâmes nous coucher dans le dortoir qui avait été aménagé pour les invités au dernier étage de la maison. Avant de nous endormir, il fut décidé de refaire un tour à vélo le lendemain, dimanche, vers 10 heures, c'est-à-dire à 1 heure où nous aurions des chances de voir du monde. Beaucoup de vélos faisaient le tour de l'île tous les jours en été. Nous ne risquons rien à passer devant le chantier à condition de rester à vélo sur le chemin et de ne pas passer 10 fois de suite. Vers 10 heures et quart, nous passâmes devant le chantier. Deux hommes travaillaient sur la coque d'un des bateaux à sec, juste à l'endroit signalé par Ursula. Malheureusement, ils étaient un peu loin et on ne voyait que leur dos. Il était donc impossible de les identifier. Quelques centaines de mètres plus loin, nous fîmes demi-tour et nous repassâmes devant le chantier. Les deux hommes étaient toujours au travail, dans la même position. Il nous parut que l'un d'eux portait la barbe. « Peut-être Francesco. Jean-Claude Martin n'est pas barbu. » Nous dépassâmes le chantier et nous nous arrêtâmes pour nous concerter. Il était clair que nous n'arriverions pas à grand-chose en nous contentant de circuler à vélo. Il fallait trouver une autre méthode pour nous approcher beaucoup plus près si nous voulions avoir une chance d'identifier les hommes présents sur le chantier. Nous dûmes rentrer car le déjeuner était servi à midi juste. La marraine d'Ursula avait passé la matinée devant ses fourneaux et n'admettait aucun retard. En début d'après-midi, nous avions prévu de faire le trajet à vélo, puis de les cacher dans un buisson et de nous approcher le plus possible en nous abritant derrière les nombreux obstacles, bateaux, arbustes, caisses, épaves, qui encombraient les alentours du chantier. C'était un peu plus risqué. Ursula refusa de nous suivre. L'accident auquel j'avais échappé avec Stéphane en pleine mer lui prouvait à quel point ces bandits étaient dangereux, et elle n'avait aucune envie de prendre des risques en s'approchant d'eux. L'ennui est qu'elle était la seule de nous trois à avoir déjà vu Jean-Claude Martin quand elle surveillait son bateau sur le port d'hier. Stéphane et moi ne le connaissions qu'en photo. Nous ne voulûmes pas forcer Ursula à nous suivre et nous partîmes tous les deux. Le soleil était au zénith, il faisait très chaud. Nous couchâmes nos vélos dans un buisson dès que les bâtiments du chantier furent en vue. Puis nous dûmes contourner ces bâtiments par derrière, ce qui nous prit pas mal de temps. Heureusement, nous étions dimanche et il ne semblait y avoir personne dans les parages. Le plus discrètement possible, nous nous avançâmes vers l'air où de nombreux bateaux étaient en attente de réparation et de carénage. Nous dûmes nous mettre à ramper pour rester invisibles, en gardant la vue sur le bateau qui nous intéressait. C'était un vieux chalutier en bois qui paraissait un peu délabré. Stéphane remarqua que la coque avait l'air saine et que les deux hommes étaient en train d'enfignoler le calfatage pour la rendre parfaitement étanche. Mais ce que je remarquai, comme Stéphane, c'est que les deux hommes étaient barbus. Il pouvait donc s'agir de simples pêcheurs qui n'avaient rien à voir avec notre affaire. Ou bien il s'agissait de nos deux bandits et il s'était laissé pousser la barbe pour être moins facilement reconnu. Je me dis qu'il y avait bien des chances pour qu'Ursula se soit trompée et que nous nous soyons montés la tête avec cette histoire. Mais dans ce cas, il n'y avait pas d'autre risque que de passer pour des andouilles. Mais pour le moment, il nous fallait absolument mettre une certitude en face de nos doutes. Et comment faire pour trouver cette certitude que nous étions venus chercher ? Les deux hommes pouvaient éventuellement se trahir en s'interpellant par leur prénom ou en parlant entre eux de choses qui auraient rapport à leur histoire. Mais à cette distance, avec le vent et le bruit des vagues, nous ne pouvions espérer entendre le son de leur voix. S'ils étaient accompagnés d'une jeune femme, le troisième complice, la belle comptable, les chances d'être en présence des bandits recherchés auraient été plus grandes. Mais en face de ces deux hommes, qui avaient parfaitement l'allure de deux pêcheurs, le doute restait total. De plus, je me demandais comment Ursula avait pu reconnaître Jean-Claude Martin seulement par le regard. Peut-être avait-elle ce don particulier de mon père d'être un grand physionomiste et de pouvoir identifier à coup sûr une personne, quel que soit le soin qu'elle prenne à se déguiser. Pour le moment, étendus dans les herbes sèches, nous avions la nuque, le dos et les jambes en train de griller sous un soleil impitoyable. Je sentais la sueur dégouliner sous mon t-shirt et sur mon visage. Je me dis que j'étais comme un glaçon posé au soleil. J'étais en train de fondre. Je me rendis alors compte que nous avions oublié d'apporter à boire. Tant pis, il fallait faire quelque chose. Avec Stéphane, nous nous interrogeâmes à voix basse. Après quelques minutes de silence, où je le voyais en pleine réflexion, il me dit « Je vais refaire le tour, arriver le plus naturellement possible sur le chantier par le chemin, passer à côté des deux hommes, les saluer et me mettre à travailler sur le vieux voilier juste à côté d'eux. Ils ne me connaissent pas, je ne risque rien. Sur place, je verrai ce que je pourrai trouver pour avoir l'air de travailler sur ce bateau. C'est mon boulot, je trouverai bien à m'occuper. L'air de rien, j'essaierai d'entrer en conversation avec eux. Peut-être qu'un détail lâché dans la conversation me permettra de savoir s'ils sont bien ceux que nous croyons. » Je n'étais pas trop rassurée par la proposition de Stéphane. Je ne lui proposais même pas de l'accompagner. Ma présence l'aurait gêné pour le rôle qu'il voulait se donner. Et puis, il fallait que quelqu'un reste en arrière et puisse donner l'alerte en cas de problème. « Ne t'inquiète pas, me dit-il, je n'ai pas l'intention de passer plus de 2 heures avec eux. Le mieux est que tu restes à surveiller d'ici ce qui se passe. Je ne risque rien, ils n'ont aucune raison de se méfier de moi. Dès que tu me vois repartir par le chemin, tu refais le tour des bâtiments et on se retrouve au vélo. Si c'est bien ce que nous croyons, on appelle les gendarmes. Si je n'ai pas encore pu me faire une idée, j'y retournerai demain. Ils ont encore du boulot et ils ne sont pas encore partis. » Avant de remettre le bateau à l'eau, il reste à mettre plusieurs couches de peinture anti-fouling sur la coque. Ils en ont encore pour 2 ou 3 jours au minimum. J'embrassai tendrement Stéphane et lui souhaitai bonne chance. Il repartit par le même chemin en rampant et en se dissimulant au mieux. Il refit le tour des bâtiments dans l'autre sens et, au bout de 10 minutes, je le vis réapparaître au milieu des bateaux, marchant tranquillement, comme un homme qui vient bricoler son bateau. Passant près d'eux, il salua rapidement les 2 compères et commença à tourner autour du bateau voisin. Il vérifia les béquilles, monta à bord, défit la bâche, sortit des outils qui devaient être à bord et se mit à s'affairer sans que je comprenne bien à quoi il s'occupait. 1 ou 2 fois, il adressa la parole à ses voisins de chantier. Cela dura 1 heure et demie environ. Je commençais à trouver le temps long et je me réconfortais en me rappelant que Stéphane avait dit ne pas vouloir rester plus de 2 heures. Je n'allais donc pas tarder à le voir ranger ce qu'il avait sorti et prendre le chemin du retour. J'allais pouvoir le rejoindre et savoir si l'intuition d'Ursula était bonne. Mais à ce moment, je le vis discuter longuement avec les 2 hommes. Ils faisaient de grands gestes en direction de la mer et en direction des bâtiments du chantier. Au bout d'un moment, ils semblaient retomber d'accord. Stéphane et l'un des hommes partirent en direction du hangar. L'homme qui restait commença par téléphoner brièvement avec un téléphone portable, puis il rangea rapidement tout ce qui traînait autour du vieux chalutier. Cela ressemblait étrangement à des prémices de départ. Au bout d'une 10 minutes, le vent m'apporta un bruit de moteur et je vis apparaître Stéphane au volant d'un vieux tracteur attelé à une remorque de mise à l'eau. Le tracteur était de couleur rouge, ou plutôt rouille, et faisait un bruit d'enfer. La remorque n'avait plus de couleur depuis longtemps. C'était presque le même matériel que celui que j'avais pu voir et utiliser hier. L'homme qui avait accompagné Stéphane suivait à pied. Je compris immédiatement qu'il s'agissait de mettre le chalutier à l'eau, bien que Stéphane m'ait précisé qu'il n'était pas prêt. La marée était basse, c'était le bon moment. Je pus suivre toute la manœuvre. Je me dis que les 2 hommes avaient dû reconnaître en Stéphane un professionnel des vieux bateaux et ils avaient décidé d'utiliser ses compétences pour cette opération délicate. Il leur fallut bien 1 heure et demie pour que le chalutier soit reposé sur le sable de la grève avec ses béquilles et que le tracteur soit rentré au hangar avec sa remorque. Il était temps, l'eau remontait déjà et les hommes pataugeaient dans quelques centimètres d'eau. Je crus que Stéphane allait être libéré et que j'allais pouvoir le rejoindre à la cachette des vélos. J'espérais qu'il avait enfin acquis des certitudes sur l'identité des 2 pêcheurs barbus avec qui il avait travaillé tout l'après-midi. Non seulement il ne prit pas le chemin du retour, mais il monta à bord avec les 2 hommes. Je commençais à être sérieusement inquiète. La marée allait mettre plusieurs heures à monter jusqu'à ce que le vieux chalutier se mette à flotter. Que se passerait-il alors? Stéphane serait-il débarqué et chaleureusement remercié pour son aide précieuse, ou bien serait-il gardé à bord comme otage? Stéphane savait peut-être à qui il avait affaire, mais moi je n'avais aucun moyen de me faire une idée. Devais-je alerter la police? Je savais que l'été, en plus du policier municipal, quatre gendarmes étaient présents sur l'île. Dans un premier temps, je voulus donner l'alerte. Je ne tenais pas à ce que Stéphane risque sa peau dans cette histoire. Je revins jusqu'au vélo en me disant que si les deux hommes n'étaient que de simples pêcheurs, je passerais pour une imbécile, mais tant pis, ce ne serait pas si grave. Mais en réfléchissant plus, je compris que mon raisonnement était idiot. Si nous n'avions affaire qu'à de braves pêcheurs, Stéphane ne risquait rien, mais s'il s'agissait de Jean-Claude Martin et de son complice, l'arrivée de la gendarmerie pouvait précipiter les choses et changer la position de Stéphane d'assistant technique temporaire en otage, bon à abattre en cas de besoin. Je revins donc à mon poste d'observation, mais j'étais trop éloigné du bateau, maintenant entouré d'eau. Tout en restant à couvert, je quittai ma position, je m'avançai progressivement vers la mer. Après avoir cherché l'emplacement le plus favorable, je me glissai dans l'épave d'un canot, à quelques mètres du chemin où quelques cyclistes continuaient à circuler. J'étais allongé sur le ventre, personne ne pouvait me voir. En revanche, à travers les bordées manquantes de la coque en bois, je voyais parfaitement le chalutier et la mer qui montait autour. Il n'y avait personne sur le pont, mais de temps en temps, j'apercevais une silhouette qui rejetait des seaux d'eau à la mer. Stéphane avait donc raison, le bateau n'était pas prêt à prendre la mer. Il devait prendre l'eau comme une passoire. Mais cela ne signifiait pas que les navigateurs étaient des bandits pressés de prendre la fuite. Ce pouvaient bien être des pêcheurs qui avaient dû aborder ici pour faire une réparation urgente et qui voulaient rejoindre au plus tôt leur port d'attache pour y terminer les réparations. Les heures passèrent et régulièrement, des seaux d'eau étaient versés par-dessus bord. Le soir venait et des nuages noirs assombrissaient le ciel, préludes à un orage d'été. Le chalutier se mit à bouger. Il avait l'air un peu bas sur l'eau, mais il flottait. Il y eut alors comme un petit nuage à l'arrière et j'entendis le tap-tap régulier du moteur qu'on venait de mettre en route. Je pensai que c'était peut-être à cela que Stéphane avait occupé toutes ses heures, à démarrer ce vieux moteur poussif et hors d'âge. Je vis alors un des hommes prendre place dans l'annexe, c'est-à-dire dans la coquille de noix qui permet de rejoindre la terre quand le bateau ne peut s'approcher du rivage. Le minuscule bateau se détacha du chalutier et, à grands coups de pagaie, un coup à droite, un coup à gauche, commença à se rapprocher de la rive. Mais il y eut un appel qui fut renouvelé depuis le chalutier et l'annexe fit demi-tour. Elle embarqua un objet, je ne pus voir de quoi il s'agissait, et elle reprit sa progression vers la rive. L'homme atterrit à tout juste 20 mètres de moi. À peine sa coquille de noix tirée au sec, je le vis s'approcher en brandissant une sorte de bâton que je reconnus pour un pied de biche, outil de base des voleurs et qui peut, en cas de besoin, servir d'arme. Aussi, un frisson glacial me parcourut l'échine. Une seconde, je crus qu'il venait me régler mon compte et j'eus la tentation folle de partir en courant, espérant le semer la course. Heureusement, je n'en fis rien. Je me raisonnai et me convainquis qu'il ne pouvait pas avoir deviné ma présence. Il aurait fallu qu'il passe à 3 pas de ma barque pour me voir. Effectivement, il s'intéressa plutôt à une grosse caisse qui était posée là, au bord du chemin. Avec son pied de biche, il fit sauter le couvercle qui devait être cloué, puis il transporta une partie du contenu, des cartons de diverses tailles, dans l'annexe et repartit vers le chalutier. Il refit la même manœuvre une demi-heure plus tard. Le jour avait bien baissé et je crus que je ne risquais plus rien à aller jeter un coup d'œil à cette caisse. Je vis qu'elle était vide et qu'en 2 voyages, il avait transporté tout son contenu sur le chalutier. Pourtant, je ne pus savoir ce que contenaient ces cartons. Du ravitaillement, du matériel de pêche, un butin, des armes, de la drogue. La nuit tombait, l'orage menaçait. Je pris la résolution d'attendre encore un peu. Si jamais le chalutier appareillait avec Stéphane à bord, je pensais avoir le temps de foncer à vélo jusqu'au port et de faire coincer le chalutier par les gardes-côtes avant sa sortie du golfe. Je m'assis sur une pierre et continuai à observer ce qui se passait du côté de la mer. Je crus voir que l'annexe revenait une nouvelle fois et je jugeai prudent de regagner ma cachette. Bien m'en pris, car je n'étais pas si tôt allongé dans ma barque que j'entendis derrière moi un vélo qui freinait sur le chemin. Je ne bougeai pas. Le cycliste laissa son vélo à 5 mètres de moi et s'avança sur la grève. À sa silhouette et ses longs cheveux, c'était une jeune femme. Elle se tint à la limite de l'eau, attendant visiblement l'arrivée de l'annexe. Je pensais immédiatement à la comptable et maîtresse de Jean-Claude Martin. Ainsi, le trio allait se regrouper pour fuir. Mais qu'allait devenir Stéphane ? Je commençais à n'être plus du tout rassuré sur son sort. Néanmoins, j'attendis de voir ce qui allait se passer. Ce fut rapide. L'annexe arrivait avec 2 hommes à bord. L'un des deux bondit sur la berge, tandis que la nouvelle passagère, pataugeant dans l'eau, se hissa à bord. Immédiatement, la coquille de noix repartit. Aucune lampe de poche ne s'était allumée, mais un éclair me permit de voir que la silhouette de l'homme qui avait débarqué pouvait être celle de Stéphane. Il faisait déjà bien sombre. L'homme avança sur la grève, traversa le chemin en passant à quelques mètres de moi. Il ne paraissait pas chercher à rester discret. Il appela à voix basse. « Emmanuel !» Je reconnus aussitôt le son de sa voix et, sortant de ma barque comme un diable de sa boîte, j'appelais à mon tour « Stéphane !» Nous nous serrâmes l'un contre l'autre de toutes nos forces. L'après-midi avait été si éprouvant pour mes nerfs. « Alors ?»« C'est bien eux, » me confia-t-il. « Mais il n'y a que peu de temps que j'en suis sûr. » Il faisait très attention à ce qu'il disait, ne prononçait jamais de nom ou de prénom et parlait le moins possible. C'est seulement quand ils ont voulu embarquer les provisions qu'ils avaient oubliées sur la berge, dans la caisse. L'un est parti en annexe et le chef qui était resté à bord l'a rappelé en criant « Francesco, le pied de biche !»« Ils ne t'ont pas fait de mal ?»« Pas du tout, ils étaient ravis du coup de main. Ils m'ont pris pour un gars du coin qui retape son bateau. » Ils m'ont donné 500 euros pour la peine. C'est un peu beaucoup pour 2 pauvres pêcheurs qui retapent un vieux rafiot pourri. À ce moment, la pluie se mit à tomber. Quelques grosses gouttes espacées, puis de plus en plus serrées, commencèrent à marteler le sol. Stéphane m'entraîna. « Viens vite, ils ne pourront pas aller bien loin, mais il faut donner l'alerte. » Il faisait trop sombre, nous ne pûmes voir l'annexe accoster le vieux chalutier. Et sous des trombes d'eau, nous nous mîmes à courir jusqu'à nos vélos. Déjà complètement trempés, aiguillonnés par la pluie qui nous mitraillait le visage, les bras, les jambes, nous pédalâmes comme des fous en direction du port. Le chemin était évidemment complètement obscur et désert. Les phares de nos vélos n'éclairaient pas grand-chose. Tout à coup, une puissante lampe nous aveugla et quelqu'un hurla. « Gendarmerie nationale, arrêtez-vous !» Nous nous arrêtâmes au niveau des gendarmes qui venaient vers nous, à vélo, eux aussi. Ils avaient baissé leurs grosses lampes torches et je vis que, comme nous, ils étaient complètement trempés et dégoulinants. « Vous ne seriez pas Emmanuel et Stéphane ?»« Mais oui, c'est nous. »« Qu'est-ce que vous fichiez au chantier du GUIP ? Madame Mavic et sa filleule ont donné l'alerte. Comme vous n'étiez pas rentrés dans la nuit, elles ont cru à un accident. » « Il nous est bien arrivé quelque chose, » répondit Stéphane, « mais ce n'était pas un accident. Nous avons reconnu 3 bandits qui sont en train de prendre la fuite sur un vieux chalutier. Heureusement, j'ai pu saboter le moteur, mais il faut leur envoyer les gardes-côtes pour les coincer. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous vous croyez dans un roman ? Bon, on passe chez Madame Mavlec pour la rassurer. Vous pourrez vous changer. » Et tout de suite après, on se retrouve au sec à la gendarmerie où il faudra me donner des explications. Votre histoire n'est pas claire du tout. » C'est ainsi que nous retrouvâmes Ursula et sa marraine, escortées par les gendarmes, aussi trempées que si nous venions de prendre un bain tout habillées. Madame Mavlec nous gronda. À son âge, avec ses problèmes de cœur, elle n'avait pas besoin qu'on lui fasse de pareilles frayeurs. Une fois rhabillés de sec et équipés d'un grand parapluie, nous ressortîmes pour rejoindre les gendarmes et nous expliquer avec eux. Nous dûmes insister pour qu'Ursula nous accompagne. Après tout, c'était bien à cause, ou plutôt grâce à elle, si nous étions là ce soir. Le déluge se calmait déjà. Les deux gendarmes avaient eux aussi pris le temps de se changer. Nous nous assîmes autour d'une table et nous racontâmes toute l'histoire depuis le début. Je cherchais à aller vite pour que Jean-Claude Martin et ses deux acolytes soient arrêtés avant qu'ils aient eu le temps de disparaître. Mais les gendarmes n'étaient pas très crédules et il fallut leur donner force détail pour qu'ils commencent à croire que notre histoire était vraie et que nous n'avions rien inventé. Stéphane expliqua qu'il avait passé beaucoup de temps cet après-midi à remettre le vieux moteur en marche. Quand, un peu plus tard, il a enfin eu la certitude qu'il se trouvait bien en présence de Jean-Claude Martin et de ses complices, il a cherché ce qu'il pouvait faire pour retarder leur fuite sans se compromettre. L'idée lui est venue en observant le moteur. Comme la plupart des moteurs marins, celui-ci est équipé de deux pompes qui tournent avec lui. La première aspire de l'eau de mer pour le refroidir et la recrache à l'arrière avec les gaz d'échappement. La deuxième aspire l'eau qui peut se trouver à fond de cale et la rejette à la mer. En modifiant les raccordements des deux pompes avec un bout de durite, il était arrivé à faire qu'une des pompes remplisse le bateau d'eau de mer au lieu de le vider. L'eau allait monter doucement à l'intérieur. Les faux pêcheurs ne se rendraient compte de rien au début, car la coque n'étant pas encore étanche, il aurait fallu attendre que le bois gonfle. La présence d'eau au-dessus du plancher était normale. En revanche, le moteur remplissant le bateau au lieu de le vider, il deviendrait très vite difficile de contrôler la montée de l'eau à l'intérieur, même en la rejetant à grands coups de seau. S'il n'arrivait pas à entraver la montée de l'eau, le bateau coulerait. Convaincu que le moteur vidait l'eau, car cela fait partie de son rôle et n'ayant plus accès au raccordement de la pompe par suite de l'inondation de la cale, les fuyards n'allaient pas tarder à se retrouver dans de beaux draps. Les gendarmes se laissèrent enfin convaincre et, passant dans leur bureau, s'activèrent au téléphone. L'un revint leur annoncer que le chalutier des fuyards allait être activement recherché. L'autre revint quelques minutes après, l'air mi-figue, mi-raisin. Il déclara « Mademoiselle, je viens de joindre votre père au téléphone. Il confirme point par point tout le début de votre histoire. En revanche, il n'a pas eu l'air tout à fait ravi de votre escapade bretonne. » Il vous croyait ailleurs. » Le lendemain, de bonne heure, nous nous rendîmes à nouveau à la gendarmerie pour avoir des nouvelles. Avait-on pu arrêter Jean-Claude Martin et ses deux complices ? « Pour l'instant, les recherches n'ont rien donné, » répondit laconiquement le gendarme de service. Mais à l'instant, un appel radio que nous entendîmes nous annonça l'inverse. Ne pouvant contrôler la montée inexorable de l'eau à bord et redoutant le naufrage qui n'allait pas manquer d'arriver, les trois complices s'étaient rapprochés d'un îlot où ils s'étaient échoués. La marée étant alors descendante, ils s'étaient retrouvés bloqués jusqu'à la marée suivante. La vedette de la gendarmerie a eu du mal à les repérer dans le dédale des îles du Golfe, mais elle n'a eu qu'à les cueillir quand elle s'est approchée. Sans doute épuisés par les émotions et les efforts de la nuit, ils n'ont opposé aucune résistance. Le lendemain, une réception fut organisée à la mairie en l'honneur des deux intrépides enquêteurs. Il y avait là le maire, Madame Mavlec, des journalistes et toutes les personnalités de l'île. L'après-midi, nous eûmes droit à une visite guidée du chantier du GUIP. C'était, on s'en souvient, le but officiel du voyage de Stéphane. Avant, pendant et après le repas, je dus embrasser Stéphane plusieurs fois pour des photos et pour faire plaisir aux uns et aux autres. J'avoue que je le fis de bonne grâce. Le mardi, remis de nos émotions, nous rentrâmes en train. Stéphane voulait rentrer en stop directement sur Hyères, comme il était venu. Mais je réussis à le convaincre de m'accompagner jusqu'à la maison. Je n'avais pas encore eu mes parents au téléphone et je n'étais pas très à l'aise à l'idée de devoir m'expliquer face à face avec eux. Je pensais qu'en arrivant, accompagné de Stéphane, l'engueulade serait forcément moins salée. Il y en aurait une partie pour lui. Et moi, je me sentais beaucoup plus forte en sa compagnie. Prenant l'excuse du départ très matinal, je confiais à Madame Mavlec le soin de téléphoner chez moi notre heure d'arrivée. C'est ainsi que, dans la soirée, je descendis du train, suivi de Stéphane, et que je me retrouvai brusquement en face de mes deux parents venus m'attendre. Je me retournai vers Stéphane pour prendre une dose de courage. Puis je m'avançai, la tête basse, pas très rassurée sur l'accueil qu'ils allaient me faire. Ils s'étaient tous les deux, papa surtout, composé un regard assez dur qui n'augurait rien de bon. Je fis tout de même les quelques pas qui me séparaient d'eux. Et là, coup de théâtre, maman se précipita vers moi et me serra très fort dans ses bras.
« Ma petite fille chérie, tu nous as fait si peur !»
Elle tendit le bras, attrapa l'épaule de Stéphane et le joignit à notre étreinte.
« Mes enfants, vous êtes vivants. Il ne faut plus me faire des peurs pareilles !»
Mon père, qui avait peut-être préparé de belles phrases pour nous sermonner copieusement, comprit que son plan venait d'être saboté par l'amour maternel. D'abord surpris, il se mit à sourire et, ne sachant plus comment s'y prendre, il dit « Allez, en voiture !»